Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants du territoire qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Média Basque pour un papier qui s'appelle « Aide aux migrants, les Oroniards sollicités selon le principe de fraternité ». C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Anaïs Aguirre-Olagaray.
Bonjour.
Anaïs, avec vous, nous allons évoquer la situation des migrants au Pays Basque. Un mot d'abord sur une forme d'état des lieux. Le territoire est un point de passage majeur, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ouais, c'est un point de passage majeur. On l'observe depuis 2018. Pas mal de personnes migrantes passent par la frontière du Pays Basque nord et sud. Donc c'est vers... entre Irun, qui est côté espagnol, et Hendaye, côté de État français. Ouais.
Est-ce qu'on sait combien de ces migrants passent chaque année par le Pays Basque ?
Alors non, j'ai pas de chiffres comme ça. En revanche, on sait, c'est qu'à Bayonne, il y a un foyer d'accueil qui s'appelle Paucha. Et à Paucha, ça désemplit pas, quoi. C'est là, en fin d'année 2021, selon l'association Diakité qui s'occupe de ces migrants qui passent à Bayonne, il y avait par exemple 900 accueillis au mois d'octobre, plus de 1000 en novembre. En décembre, au moment où j'ai parlé avec cette personne de l'association Diakité, il y en avait déjà plus de 700 qui étaient passés. Donc ça nous donne une indication, mais voilà. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a toujours une majorité d'hommes, mais aussi de plus en plus de femmes, et notamment de Guinée et de Côte d'Ivoire.
Oui, vous avez évoqué Paoussa, nous y avons consacré un épisode de podcasting. Est-ce que vous savez pourquoi les migrants seraient plus nombreux depuis 2018 ?
Il y avait une frontière par laquelle ils passaient habituellement, c'était plutôt du côté de l'Italie. L'Italie avait fermé ses frontières et donc les migrants ont choisi une route différente qui faisait passer du coup par le Pays Basque, par le Pays Basque, quoi.
Ces migrations se terminent, hélas, régulièrement par des drames. Vous vous en faites d'ailleurs l'écho dans Média Basque.
Oui, c'est ça. Au cours de l'année 2021, c'est 7 personnes migrantes qui sont décédées. 3 sont mortes noyées en tentant de traverser le fleuve Bidassoa à la nage. Une autre s'est suicidée et 3 autres personnes sont mortes percutées par un train à Cibourg. Donc oui, ça fait 7 drames là, sur l'année 2021.
Anaïs, le Pays Basque est traditionnellement une terre d'asile et d'accueil où les discours racistes et excluants n'ont pas beaucoup de succès. En témoigne la réception récente à Biarritz d'Éric Zemmour ou encore celle régulièrement très fraîche des représentants du Rassemblement National. Il y a depuis longtemps des initiatives d'aide aux migrants qui viennent de la population et votre papier revient sur le fait qu'elles sont en quelque sorte en train de devenir quasiment institutionnelles. Elles sont en effet promues notamment par le Centre Communal d'Action Sociale, le CCAS, celui d'Urugne mais aussi celui d'Hendaye. Que propose-t-il aux migrants, ces CCAS? CSAS?
Bah alors là, ce qu'on a vu, c'est que le CSAS du Rugne, sur sa page Facebook, a relayé un appel à l'aide et aux dons émanant d'associations d'aide aux migrants. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que, bah, qui était assez nouveau, qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc du coup, bah là, clairement, le CSAS bah, s'est fait le relais de cet appel à l'aide à Rugne, mais aussi à Hendaye. Hendaye aussi à... il y a le CCAS d'Hendaye qui facilite, on va dire, l'accueil des mineurs en mettant en relation avec l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, on constate que dans les communes frontalières, là, ça commence à, les lignes commencent à bouger et les autorités, enfin en tout cas les services locaux, soit relayent, soit se mobilisent un peu plus quoi, qu'avant.
De votre point de vue, pourquoi les municipalités choisissent-elles de faire preuve de solidarité particulière en ce moment ?
Alors, moi d'abord, je voudrais préciser que, enfin, de mon point de vue, de ce que j'observe, c'est d'abord les habitants qui sont les premiers à se mobiliser et à faire preuve de cette solidarité. Et j'ai l'impression que les communes, un peu du fait de cette pression citoyenne, elles finissent après par s'y mettre aussi. Enfin, c'est un peu ce qu'on a vu à Bayonne, entre le moment où des bénévoles se sont bougés pour accueillir et héberger les migrants, et puis la création du centre d'accueil Paucha. Je pense que pour les communes, il faut toujours un petit temps pour agir. Mais en tout cas, là, ce qu'il y a aussi, je pense, c'est que ce sont des communes frontalières, que ce soit ici au Pays Basque ou dans d'autres territoires, elles sont aux premières loges de ce phénomène de migration. Et le fait qu'elles voient de leurs propres yeux ces personnes qui concrètement sont en train de se déplacer, je pense que ça leur fait prendre conscience de ce que ça signifie en termes humains. Quoi. C'est plus, les migrants, ce ne sont plus des chiffres ou des statistiques ou un risque, mais ce sont vraiment des personnes, des hommes, des femmes, des enfants. Oui, je pense qu'elles choisissent de faire preuve de solidarité parce qu'à un moment donné, je pense qu'en voyant ces personnes traverser la frontière fatiguées, enfin, on ne peut qu'être ému. Enfin, je pense que les mairies de la frontière commencent à prendre le problème un peu au sérieux, je veux dire.
Côté de l'État, de la préfecture notamment, la solidarité n'est pas regardée de la même manière. Nous avons parlé à plusieurs reprises des problèmes rencontrés dans les centres de rétention administrative, par exemple. La préfète de Nouvelle-Aquitaine fait preuve de beaucoup de sévérité à l'endroit des migrants, et pas seulement. Ceux qui les aident se mettent aussi en péril, c'est ça ?
Ben oui, en effet, on a observé ici localement aussi un durcissement de la répression envers les habitants qui viennent en aide aux personnes migrantes. L'exemple qui me vient le plus marquant, je trouve, c'est que le 15 décembre dernier, il y a une dame, une Hendayaise de 64 ans, qui a été arrêtée et elle a passé une nuit entière en garde à vue, simplement parce qu'elle avait pris en stop plusieurs personnes qui se trouvaient être des migrants, mais qui marchaient sur le bord de la route et qui, voilà, visiblement étaient épuisées, donc par gentillesse, elle a pris ces gens-là en stop. Et elle a été arrêtée, placée en garde à vue, mais finalement, voilà, elle est sortie sans charge, quoi. Mais son fils, avec qui j'ai parlé, témoignait de ça, qu'il y avait quand même... il y a une présence policière assez intense à Hendaye, et donc il y a des arrestations des contrôles un peu inopinés, comme ça. Et c'est comme il y a une espèce de traque aux migrants, quoi. Ils se mettent en péril parce qu'il y a une répression... qui s'intensifie.
Anaïs, sur place et sans forcément parler des militants, quel est le regard de la population sur tout cela, sur cette solidarité d'un côté, cette extrême fermeté de l'autre ? Est-ce que cela alimente une forme de défiance vis-à-vis de l'État ?
Alors, je saurais pas trop répondre. Enfin, moi-même, j'habite pas dans le secteur frontalier. Je pense que ça doit être très différent d'habiter. Enfin, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, oui, c'est que c'est qu'en Andaye, Urugne, les habitants sont choqués déjà de cette très grande présence policière. Enfin, faut s'imaginer, les deux ponts en Andaye, le pont international et le pont Santiago, sont contrôlés en permanence. Il y a des grillages. Enfin, même visuellement, c'est très marquant. Ça rappelle d'autres époques. Enfin, ça marque les esprits. Donc oui, ça certainement, ouais, que ça doit alimenter une certaine défiance. Ouais. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key.
Un tout dernier mot, peut-être un peu plus personnel, mais qui concerne aussi la ligne éditoriale de Média Basque, et au passage celle de Podcasting d'ailleurs. Vous évoquez des faits dans ce papier, et plus globalement dans ce qui traite de ce thème. Il y a les faits donc sacrés, incontestables, et il y a la manière dont vous abordez ces thèmes, avec une forme d'empathie, voire de bienveillance. Nous sommes aussi là pour comprendre le travail journalistique. C'est un parti pris que vous reconnaissez, que vous assumez?
Oui, totalement. Et c'est d'ailleurs un point de vue qu'on partage au sein de la rédaction. Bon, là, je vais parler en mon nom, mais je crois qu'on en a discuté et c'est un peu, on a tous le même sentiment. Mais moi, j'estime que tous les êtres humains sur cette planète devraient avoir le droit de circuler librement, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur genre. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, dire ça, ça paraît être comme un idéal ou je sais pas quoi, mais pour moi, c'est fondamental. Enfin, on a une Terre, une planète, elle appartient à personne. Enfin, et moi, c'est quelque chose, enfin, pour dire un petit mot personnel, mais c'est quelque chose dont j'ai pris conscience en voyageant moi-même et en me rendant compte que autour de moi, les gens qui voyagent sont en général viennent des mêmes pays. Et je me suis dit, mais en fait, selon le passeport qu'on possède, on n'a pas les mêmes capacités de se déplacer dans le monde. Et donc, voilà, pour moi, c'est important pour moi de considérer ces personnes comme des êtres humains qui devraient avoir le droit de circuler et qu'on ne devrait pas criminaliser une tentative d'aller trouver une vie meilleure, quoi.
Merci beaucoup Anaïs Aguirre-Olagaray d'être venue au micro de Podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru dans Média Basque, « Les Urugnards sollicités selon le principe de fraternité ». C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garay-Coetchea, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only, not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.